Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj.
Et Galdring Drapé.
Aujourd'hui, 14e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec le bienheureux Jean Duns Scott. Et la question, Dieu est-il un être infini ? Autant Saint Bonaventure est un théologien franciscain qui s'inscrit dans la tradition des pères de l'Église et de la théologie monastique, autant le bienheureux Duns Scott renchérit sur les subtilités logiques et les distinctions conceptuelles de la théologie scolastique. Sa lecture est difficile, sa langue est abstraite, et pourtant, c'est lui qui sut défendre l'un des plus beaux mystères charnels, celui de l'Immaculée Conception. Ce n'est pas à partir de ce mystère que nous allons l'aborder, mais à partir de sa thèse métaphysique la plus célèbre, qui sera lourde de conséquences pour la suite de l'histoire de la philosophie. La thèse de l'univocité de l'être qui conduit à penser Dieu comme un étant infini. Quel est le sens de cette affirmation ? N'est-ce pas que toutes nos paroles, surtout les plus simples, les plus pauvres, contiennent une référence directe au Très-Haut ? Écoutons Jean Duns Scott dans son traité sur la connaissance de Dieu.
Il n'est pas nécessaire de distinguer si Dieu peut être connu négativement ou affirmativement, car la négation n'est connue que par l'affirmation. Il est manifeste aussi que nous ne connaissons aucune négation de Dieu sinon par le moyen d'affirmation, par l'entremise desquelles nous écartons de ces affirmations d'autres incompossibles. Et nous n'aimons pas souverainement des négations. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire de distinguer la connaissance en « ce que c'est » et en « si c'est ». Car dans mon propos, je cherche un concept simple. En effet, je ne connais jamais de quelque chose « s'il est » à moins d'avoir un certain concept de ce terme dont je connais l'être. Et c'est ce concept qu'on recherche ici. On peut donc avoir un concept de ce qu'est Dieu. Je dis non seulement qu'on peut avoir naturellement un concept dans lequel Dieu est conçu comme par accident, dans quelque attribut, mais encore un certain concept dans lequel Dieu est conçu par soi et quiditativement. Je le prouve, car en concevant sage, selon lui, une propriété est conçue, ou une quasi-propriété qui parachève la nature dans un acte second. Donc, en entendant sage, il faut avoir entendu au préalable un certain quoi, dont j'entends que cette quasi-propriété lui est inhérente. Ce quoi est sage. En outre, je dis que Dieu n'est pas seulement conçu dans un concept analogue au concept de la créature, c'est-à-dire un concept qui soit entièrement autre que celui qui est dit de la créature, mais dans un certain concept univoque à lui et à la créature. Par ailleurs, je dis que Dieu n'est pas connu naturellement par le voyageur en particulier et proprement, c'est-à-dire sous la raison de cette essence-ci en tant que celle-ci est en soi et en soi, comme échéité. Enfin, je dis que nous pouvons parvenir à de nombreux concepts propres à Dieu qui ne conviennent pas aux créatures. De cette sorte, sont les concepts de toutes les perfections absolues prises au plus haut degré. Et le concept le plus parfait, dans lequel nous connaissons Dieu le plus parfaitement, comme dans une certaine description, c'est lorsque nous concevons toutes les perfections absolument et au plus haut degré. Cependant, le concept à la fois le plus parfait et le plus simple qui nous soit possible est le concept d'étant infini. En effet, celui-ci est plus simple que le concept d'étant bon, ou d'étant vrai, ou d'autres semblables, puisque l'infini n'est pas un quasi-attribut, une passion de l'étant ou de ce dont il est dit, mais qu'il est le mode intrinsèque de cette étantité-là. De sorte que, lorsque je dis étant infini, je n'ai pas un concept comme par accident à partir d'un sujet et d'une passion, mais un concept par soi, du sujet dans un certain degré de perfection, c'est-à-dire d'infinité.
Fabrice Adjadj, quel est le contexte de ce texte ?
Alors, c'est un texte extrait du traité de la connaissance de Dieu et sur la connaissance de Dieu et l'univocité de l'étant d'un auteur franciscain dont vous allez nous parler un petit peu, Galdring.
Oui, Jean Dins, donc qui naît à la, dans
la deuxième moitié. Ah, vous dites Dins, vous ne dites pas Duns Scott, comme disent autres, vous dites Dins.
Dins, oui, Dins, on peut dire Dins, si vous préférez. naît dans la seconde moitié du XIIIe siècle, et on lui donnera le surnom de Scott, puisqu'il naît près de St. Andrews, en Écosse. Et donc Scott fait référence à son origine écossaise. Il rentre à St. Andrews dans le couvent des frères mineurs, et assez rapidement, on l'envoie étudier la théologie à Oxford, où il enseignera ensuite, avant de venir enseigner à Paris. Mais il arrive à Paris en 1303, et à ce moment-là, on est en pleine querelle des investitures, et le roi, Philippe le Bel, est en opposition à Boniface VIII. Or, les franciscains, par soumission au pape, prennent parti pour Boniface VIII contre le pape, donc à peine arrivé à Paris, il en est expulsé par Philippe le Bel. Heureusement, Boniface VIII va rapidement mourir, et donc moins d'un an après avoir été expulsé, il est rappelé à Paris où il peut enfin prendre sa charge de professeur.
Je ne sais pas comment il faut entendre « heureusement, Boniface VIII est mort ». Bon, mais bon.
Heureusement pour Duns Scott. il va enseigner à Paris et devenir maître régent de la province des frères mineurs de France. Et ensuite, en 1307, il part enseigner à Cologne, où il meurt très peu de temps après. On lui doit notamment d'avoir soutenu le mystère de l'Immaculée Conception, là où d'autres grands théologiens s'y opposaient.
Et de grands théologiens qui avaient une vraie dévotion mariale.
Enfin, oui.
On pense à Bernard de Clairvaux, qu'on appelait d'ailleurs le docteur marial, mais finalement ce titre va revenir après à Duns Scott.
Voilà. Exactement. On lui donnera aussi le titre de docteur subtil, parce que là, ces raisonnements sont si complexes et si difficiles à suivre qu'il faut une très très grande subtilité d'esprit pour...
Je crois qu'on l'a entendu, on a voulu le faire éprouver à nos auditeurs. Mais...
voilà, et donc en l'honneur de cela, il sera notamment de cette défense de l'Immaculée Conception et de ça. De sa très grande théologie positive, comme on va le voir, eh bien, il sera béatifié par Jean-Paul II en 1993.
Oui, béatification tardive, il faut le dire, et je dirais même postérieure à toute la querelle moderniste, etc., parce que c'est pas Saint-Pie X qui l'eut béatifié, c'est-à-dire une époque de thomisme très fort, où le scotisme, comme on dit, apparaît comme l'adversaire. Donc l'acte de Jean-Paul II est un acte assez extraordinaire, il faut le reconnaître, parce que c'est un acte qui reconnaît à la fois le caractère, irréfutable, incontestable du dogme, mais en même temps, puisque ce dogme est un mystère et inépuisable, la pluralité des théologies. Et que, voilà, il y a une manière de dire qui est celle de Thomas d'Aquin, qui a effectivement un rayonnement particulier, c'est pour ça qu'on l'appelle le docteur commun, bon. Mais qu'il y a chez Scott aussi une manière de faire de la théologie, qui reprend d'ailleurs Thomas d'Aquin beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, mais qui est différente et légitime.
Fabrice Adjadj, pour rentrer directement dans ce texte, j'aimerais commencer par cette phrase de Scott qui est absolument magnifique. « Nous n'aimons pas souverainement des négations ». Est-ce que là, tout de suite, il n'y a pas une remise en question de toute la théologie négative et le désir de fonder une vraie théologie positive ?
Ah oui, très certainement. Il y a chez Duns Scott une théologie affirmative. Et je crois que c'est ça. Duns Scott est un positif. Positif au sens où d'abord il croit au pouvoir de la raison, de la logique. Et c'est pour ça qu'il est capable d'entrer dans ces subtilités-là. On pourrait s'étonner d'ailleurs qu'un religieux qui voue sa vie à Dieu et qui connaît la primauté de la charité entre si loin dans des réflexions subtiles. On pourrait dire que ça n'appartient qu'à des gens qui n'ont pas d'ardeur et qui ne sont pas du côté de l'élan, du sentiment. Mais en fait, là, justement, c'est une foi en Dieu si positive que d'une certaine façon, voilà, on peut dire des choses de Dieu, on peut les affirmer. Alors, d'abord, en disant cela, il fait référence à Aristote, qui dit dans la métaphysique que la négation n'est connue que par l'affirmation. On nie toujours quelque chose. Donc, on part de quelque chose. Et ensuite, il est dans cette critique, effectivement, d'une théologie purement négative, où on dit Dieu au-delà de tout ce qui peut se dire. Mais même quand on dit cela, on dit quelque chose. Donc, cet au-delà de tout ce qui peut se dire, on part de quelque chose qui se dit. La logique de Thomas d'Aquin, c'était une logique où, la logique des non-divins chez Thomas d'Aquin, c'est de dire que Dieu est cause de toute chose, donc qu'il y a dans les effets des créatures quelque chose qui renvoie à la cause. Donc c'est pour ça qu'il y a une première affirmation qu'on peut faire à partir des créatures. Mais après, il faut une négation pour dire, attention, Dieu n'est pas à la manière des créatures. Donc, après l'affirmation, la négation, et après, ce qu'on appelle l'éminence, c'est-à-dire qu'on va dire il n'est pas simplement bon comme le bon, il n'est pas bon comme les créatures, mais il est bon en même temps, donc il va être super bon, au-delà de toute bonté, etc. C'est une manière de ressaisir aussi des manières de dire qu'on voit chez Denis l'aréopagite. Donc ça, c'est de la manière de dire. Et chez Duns-Scott, il est en train de dire, oui, ok, très bien, cette négation, mais en fait, elle est vraiment secondaire. Ce qui est premier, c'est cette affirmation. Et donc, ça donne une positivité au langage, cette manière où vous disiez les mots les plus pauvres, bon, sage, être, surtout le mot être, qu'on peut dire à propos de n'importe quoi, fait référence déjà à Dieu, dans son concept. Parce que les choses sont, mais c'est Dieu qui est, au plus haut degré, pourrait-on dire, ou infiniment, alors que, d'une certaine façon, tout ce qui est être avec des restrictions. Voilà. Et là, c'est sans restriction. Pourtant, quand je dis le mot être, je n'entends pas la restriction. Je dis c'est, voilà. Il est ou c'est telle chose. Eh bien, ce mot déjà fait signe vers Dieu, en lui-même, sans avoir besoin de passer par une autre opération logique qui serait la négation. Voilà. Et donc là c'est on retrouve cette idée profondément franciscaine par rapport à l'idée dominicaine. Je dirais que Thomas d'Aquin veut dire, bon, telle chose, c'est telle chose. Et même, on peut connaître la chose sans avoir besoin de faire de théologie. On peut pas la vie spéculative. Voilà, il y a des sciences qui fait que voilà, on peut très bien parler d'astronomie, des réalités et les comprendre dans une science qui n'a pas forcément de lien avec la foi. Est-ce que c'est possible dans la pensée de Duns-Scott? C'est pas tout à fait sûr, parce qu'il semblerait qu'ici il y ait une dans les choses même d'elles-mêmes, connaître une chose, c'est la connaître comme faisant référence à Dieu, de telle sorte que il ne peut pas y avoir de science en dehors, on pourrait dire, d'une certaine théologie, ou d'une certaine théologie au moins implicite. Et ça, c'est une affirmation franciscaine extrêmement forte.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, Dieu est-il un être infini? Alors Fabrice Hadjadj, pour pouvoir justifier cette positivité du langage et cette positivité de la théologie, Duns-Scott va remettre vraiment en question quelque chose qui était fondamental dans la métaphysique jusqu'à lui, qui était que l'être se disait de façon analogue. Et pour lui, l'être va se dire de façon univoque. Quelle est, si vous pouvez rappeler rapidement, la spécificité de cette distinction dans la manière de dire l'être, et qu'est-ce que ça change?
Bon, il faut faire attention à ne pas croire que finalement cette question de l'analogie est une question simple. C'est une question débattue, même les thomistes ne l'entendent pas de la même manière. Enfin, pas tous. Disons que la question, c'est l'emploi des mots. Je peux employer les mots de manière univoque, de manière équivoque et de manière analogique. Donc, quand je dis animal, par exemple, à propos du chien et du chat, je suis dans un terme univoque, parce que je dis un être vivant, doué de sensibilité, et c'est vrai pour les deux. Quand je dis chien à propos de l'animal et de la constellation du chien, là, pour le coup, c'est équivoque. Ça renvoie à deux réalités complètement différentes. Mais quand je dis maintenant bon à propos du chien, Rex, tu es un bon chien, et quand je dis bon à propos de Dieu, là, tout d'un coup, il y a quelque chose. Mais alors, je pourrais le dire même à propos de l'homme déjà, première analogie, un bon chien et un bon homme, je ne dis pas exactement la même chose quand je dis animal, par exemple. Bon. Mais ce n'est pas complètement univoque, ce n'est pas complètement... Voilà. Et quand il s'agit de Dieu, je dois dire que je dis quelque chose de Dieu, effectivement, en disant qu'il est bon, mais que si grande que soit le rapprochement que je peux faire, c'est-à-dire l'université que je peux avoir, il y a aussi une équivocité, un abîme plus grand, parce que Dieu est absolument transcendant. Alors, le problème, c'est que les thomistes ont laissé, enfin, peut-être saint Thomas a en partie laissé en plan cette question. Bien sûr qu'il dit, on ne peut pas dire ce qu'est Dieu. Il n'y a pas de connaissance de la quidité, de l'essence divine en elle-même. Et ça, effectivement, Dodd Scott le remet en cause. On peut dire si Dieu est, ansit, mais quid est, voilà, ça, est-ce qu'on peut le dire ? Non. Donc on passera toujours par cette négation, voilà, et Dieu est simple, ça veut dire non composé, éternel, ça veut dire non temporel, immuable, donc non changeant, etc. Bon. Donc toutes ces choses-là, ça ne dit pas ce qu'est Dieu en lui-même, mais cependant, il y a toujours cette idée. On trouverait ça, par exemple, chez l'abbé Journet, dans son traité sur la connaissance de Dieu. Il lui dira, le concept bon, par exemple, reste quand même plutôt univoque. C'est le mode de signifier qui change. Et on dira, il y a un mode de signifier fini pour les créatures, et un mode de signifier infini, justement, pour Dieu. C'est là que le mot infini apparaît. Donc Scott reprend aussi quelque chose qui est de cet ordre-là. Mais il va effectivement mettre à l'arrière-plan toute la dimension de négation. Et alors, c'est là où il semblerait qu'il y a un danger, ce serait de voir Dieu comme un étant suprême, comme étant au plus haut degré. Et donc, tout d'un coup, il y a un concept général, enfin bon, à supposer que l'être puisse être un genre, c'est pas un genre, donc c'est là où il y a une ambivalence, mais il y a quelque chose qui permet d'englober et Dieu et la créature du point de vue de la pensée abstraite. Voilà. Alors, on pourrait dire, oula, c'est très très dangereux, parce que tout d'un coup, on perd le sens de la transcendance de Dieu, et on risque d'être finalement anti-théologique. C'est ce que dit Gilles Deleuze à propos de Duns Scott. Il dit, c'est le théologien le plus anti-théologique, puisque c'est celui qui récuse une transcendance radicale de Dieu. Le fait qu'on puisse le dire au-delà de l'être. Enfin, parce que le danger, ce serait de dire que Dieu a l'être, d'une part, alors que Thomas d'Aquin dit, il n'a pas l'être. Il n'a pas l'être comme les créatures. Il est l'ipsum esse subsistens, l'être même. Mais ça veut dire qu'il y a une radicale différence entre avoir l'être et être l'être. Et là, on pourrait dire, tiens, il a l'être, il est dans l'être, voilà, comme les autres. Mais ce serait oublier un autre aspect de la pensée de Duns Scott, à mon avis. C'est qu'en même temps, il relativise beaucoup la capacité, enfin la généralisation, puisque c'est aussi un penseur de l'individualité, de la singularité, de l'etchéité, un critique de l'idée qu'il y ait des formes et des matières et que les choses sont individuées par la matière, la forme est générale, et puis tout d'un coup, il y a forme humaine, et puis tout d'un coup, le fait qu'elle entre d'une invasion dans telle matière, ça devient tel homme. Il dit non, il y a un principe d'individuation dès le départ, ce qu'il appelle l'etchéité. Il prend comme référence l'angélologie, les anges ne sont pas individués par la matière, ils n'ont pas de matière, donc ça veut dire que l'individuation a un autre principe, et donc que le terme de l'action, de la création, n'est pas du tout le composé forme-matière, mais vraiment quelque chose, voilà, qui est alors, est-ce que c'est le subsistant qu'on retrouvera après dans un thomisme postérieur. Mais en voilà, donc c'est là où il y a une vraie difficulté. Mais je, voilà, penseur positif, c'est ça qui est merveilleux.
Et penseur aussi de l'infini, puisque c'est lui qui va introduire d'une certaine manière en théologie ce concept d'infini pour Dieu, non ?
Je pense que c'est lui qui va en faire le concept majeur et qu'on va retrouver chez Descartes. Alors, avec une autre connotation chez Descartes, hein, c'est pas, y a, Descartes est beaucoup moins positif hein, que Duns Scott, en réalité. Il va y avoir chez Descartes, presque à travers l'univocité, comme un retour de l'équivocité. Vous voyez, dès qu'on sort de l'analogie, en fait, on a une sorte de balancement. Je tiens à préciser, hein, d'ailleurs, que Duns Scott... Cette sorte de positivité merveilleuse du langage et de sa capacité à dire Dieu, c'est quelque chose qui sera vraiment remis en question par un autre théologien franciscain, qui est Guillaume d'Ockham. Et donc, on arrive justement à un balancement entre une sorte d'hyper effabilité de Dieu chez Duns Scott et une ineffabilité chez Guillaume d'Ockham, dont on parlera plus tard. Donc voilà, il y a une position, je pourrais dire, extrême chez Scott qui va impliquer dans son propre ordre une autre théologie, hein, une autre théologie franciscaine qui va être en opposition, même s'il y a bien sûr des analogies.
Et Fabrice Hadjadj, au-delà de ce texte, Duns Scott, non seulement est ce penseur de l'univocité de l'étang et de l'infinité de Dieu, c'est aussi un penseur vraiment de la création.
Oui, alors bien sûr, de l'acte de création, justement, comme où Dieu veut les individualités. Ça, c'est très beau. On sort complètement, on pourrait dire, d'une certaine forme de platonisme. C'est ça qui est très mystérieux chez Scott, c'est que c'est l'auteur peut-être le plus abstrait, et même lui-même, il dit que la thèse de l'univocité de l'étang, c'est cette sorte d'abstraction ultime. Et en même temps, cette abstraction est au service de la beauté du singulier, si j'ose dire, la beauté d'un acte qui va non pas vers le « qu'est-ce que c'est ?» mais « ecce, voici cette chose. Ouais. » Et donc, le « ceci hein. ». Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que ça montre que Dieu n'aime pas en général, Dieu ne produit pas simplement des espèces, il produit des individus. Et là, il y a une autre pensée de l'individualité chez lui qui est très importante, c'est sa reprise de la pensée de la volonté, un peu, on pourrait dire, chez Augustin, c'est vraiment un acte de volition est vraiment un acte d'autodétermination, c'est-à-dire où là encore le singulier, hein, donc l'esprit singulier, il n'est pas simplement déterminé par son objet, bon, etc. Il ne tombe pas dans les erreurs de la pure volition autoposée, etc. Ça c'est ce qu'on trouvera chez d'autres. Il reconnaît une place à l'objet déterminant. Mais il y a quand même cet acte d'autodétermination, il insiste beaucoup sur le fait que la volonté est une volonté individuelle, personnelle, qui, d'une certaine façon, se tient face à Dieu et fait le choix de Dieu personnellement.
Fabrice Hadjadj, cette conception de l'infini qu'il va avoir et de cette émanation de la volonté, ça va avoir quand même un aspect... Enfin, ça va quand même influer sur sa morale et sur sa position sur la volonté.
Oui, parce que, enfin, en tout cas, le lien, un lien entre les deux, bien sûr, puisque finalement, même si la définition qui se pose, enfin, l'opposition créée, incréée, se jouant comme fini, infini, et non plus à partir d'une transcendance totale, d'une certaine façon, la créature a un titre à se revendiquer comme être face à Dieu. C'est ça qui est magnifique. Il y a une possibilité de penser la créature qui est posée face à Dieu et qui donc peut faire ce choix. Alors, Ockham va d'une certaine façon reprendre radicalement cette pensée-là, même s'il va en tirer d'autres conséquences et il va s'opposer à Duns Scott. Mais voilà, je suis un être, Dieu est un être. Et donc, il y a la possibilité, peut-être une manière d'essayer de penser une alliance avec Dieu, où je ne suis plus du tout, là pour le coup, une émanation, on pourrait presque dire que la relation de Dieu à la créature devient une relation réelle et pas une relation logique, comme le disait Thomas d'Aquin. Donc ça pose d'énormes problèmes, hein. Mais je pense qu'il y a derrière Scott, et ça permettrait de comprendre qu'au-delà de la question logique de l'univocité de l'être, il y a une pensée de l'alliance, où je peux être d'une certaine façon un partenaire de Dieu.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec le bienheureux Don Scott, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les vendredis à 14h, les samedis à 10h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.